Le 4 novembre 1958. Les dieux des Puranas.
Les dieux des Puranas sont des dieux impitoyables qui n'ont que le respect que pour la puissance, sinon le respect pour la puissance, et qui n'ont rien de ce que le divin a mis dans la conscience humaine d'amour vrai, de charité, de bonté profonde, qui compense psychiquement tous les défauts extérieurs. Eux, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de psychique. Les dieux pour un être n'ont pas de psychique. Alors, je ne sais pas, ils agissent selon leur puissance, de frein que quand leur puissance n'est pas toute puissance.
Mais tu dis un peu tout ça.
C'est ça que j'ai
dit. Oui, un peu tout. Oui, c'est ça que tu dis.
Oui, c'est ça.
De la femme idéale selon la conception hindoue, celle qui adore son mari comme un dieu. N'est-ce pas? Elle voit le suprême dans son mari. Et alors, cette femme était beaucoup plus puissante que tous les dieux des Puranas. Parce que elle avait justement cette capacité psychique du don total de soi et sa foi dans la présence du suprême dans son mari lui donnait une puissance qui était beaucoup plus grande que celle de tous les dieux. Et alors l'histoire du cinéma était comme ça que Narada, selon son habitude, n'est-ce pas, Narada c'est un demi-dieu qui a position divine. C'est-à-dire qu'il peut, à son gré, communiquer avec l'homme et communiquer avec les dieux. Et il sert d'intermédiaire. Mais alors, il aime à s'amuser. Et il s'était disputé avec une des déesses, je ne me souviens plus laquelle, et il lui a dit on a disputé comme ça, que Saraswati lui disait que la connaissance est beaucoup plus grande que l'amour. Et alors, beaucoup plus grande dans le sens d'être beaucoup plus puissant que l'amour. Et alors lui a répondu qu'il ne savait pas de quoi il parlait, et que l'amour était beaucoup plus puissant que la connaissance. Alors elle l'a défié, elle lui a dit, prouvez-le-moi, bien, je vais vous le prouver.
Oui.
Alors toute l'histoire commence là-dessus, alors il se met à faire tout un broglio sur la terre pour arriver à prouver. Et c'est une histoire de cinéma, c'est tout. Mais enfin, là où les déesses ont essayé, se sont mises toutes les trois, les trois femmes de Trimurti, n'est-ce pas? C'est-à-dire la femme de Brahma, la femme de Vishnu et la femme de Shiva. Elles se sont liguées et elles ont essayé toutes sortes de choses. Je ne me souviens plus des détails de l'histoire, mais chaque fois, l'histoire commence comme ça. Il y en a une des trois, je crois que, oui, c'est la femme de Shiva. C'était la pire d'ailleurs, la femme de Shiva. Shiva était en méditation, et puis alors elle s'est mise à faire du puja devant Shiva. Et elle faisait puja avec des lumières, et la lumière est tombée sur son pied, et a brûlé son pied, et elle a crié. parce que ça a brûlé son pied. Alors Shiva sort de sa méditation tout d'un coup et lui dit, Devi, qu'est-ce qu'il y a? Et la réponse, je suis brûlé du pied. Alors Narada lui dit, c'est pas dégoûtant ce que vous avez fait là, faire sortir Shiva de sa méditation, simplement parce que vous avez une petite brûlure sur votre pied qui ne pouvait même pas vous faire de mal puisque vous êtes immortel. Alors elle est devenue furieuse et elle lui a dit, montrez-moi que ça peut être autrement. Et Narada a dit, je vais vous montrer ce que c'est que vraiment d'aimer son mari, il n'y entendait rien. Et alors, on vient à l'histoire d'Anusuya qui est avec son mari, qui est un mari, c'est un très brave homme, enfin ce n'est pas un dieu. Et il est en train de se reposer la tête sur ses genoux à elle. Ils avaient fait leur... Ce sont tous les deux des adorateurs de Shiva. Et alors... Après leur puja, lui se repose, il dort sur la tête sur les genoux d'Anusuya. Bon, les dieux qui sont descendus sur la terre, et particulièrement cette Parvati, et il la voit comme ça, alors c'est une bonne occasion. Il n'y avait pas très loin un feu sur un fourneau. Avec son pouvoir, elle envoie le feu rouler sur les pieds d'Anusuya. Il fait comme ça parce que ça lui fait mal, parce que ça commence à brûler. Pas un cri, pas un mouvement, rien, parce qu'elle ne veut pas réveiller le mal. Et alors, elle a commencé à invoquer Shiva.
Shiva était là.
Et parce qu'elle a, ça c'est joli dans l'histoire, parce qu'elle a invoqué Shiva, le pied de Shiva a commencé à brûler. Non, Narada montre à Parvati, regardez ce que vous faites, vous êtes en train de brûler. Tu veux que Marie... Alors elle fait un geste opposé, et le fait semble. C'est comme ça.
C'est joli.
Bon, l'histoire était très jolie, tout du long. Il y avait une chose après l'autre, une chose après l'autre, une chose après l'autre, et toujours... Le pouvoir d'Anusuya a été plus grand que le pouvoir des... J'ai beaucoup aimé cette histoire. Ça s'est terminé d'une façon... Oh, c'est une longue histoire, ça a duré 3 heures. Mais ça, vraiment, c'était joli tout le long. Joli pour montrer que la sincérité de l'amour, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quoi. Je ne vais pas raconter tout ça, ça m'en fait mal. Mais enfin, voilà la chose.
Peu après, Mère reparle des dieux pouraniques, dont elle avait dit qu'ils étaient pires que les êtres humains.
Les dieux pouraniques, parce que, par exemple, les gens chrétiens ne comprennent même pas ce que ça peut vouloir. Ils ont une conception des dieux tout à fait différente.
Rien, ça.
Ça pourrait s'appliquer à la vieille mythologie grecque.
Oui. Oui. Non, ça s'applique quand même dans beaucoup de cas, les gens. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, si les chrétiens ne comprennent pas, il y en a beaucoup qui comprendront. C'est quelque chose de très court.
Ceux qui ont un peu lu et qui ne savent pas qu'ils savent
oui, ils
des choses autres que leur petit ornière, ils comprendront.
Moi, tu dis les dieux des Puranas, ben, c'est suffisamment clair. Il me semble que ça pourrait être.
Il y a toutes sortes de similitudes entre les dieux des Puranas et les dieux de la mythologie grecque ou de la mythologie égyptienne, n'est-ce pas? Les dieux de la mythologie égyptienne sont des êtres terribles. Il coupe la tête des gens, il dépaisse leur vie.
Ouais, les Grecs n'étaient pas tendres toujours non plus. Les dieux grecs.
N'est-ce pas, en Europe, avec l'éducation occidentale, On s'imagine que tous ces dieux, les dieux grecs et les dieux païens, comme ils les appellent, sont des imaginations humaines, que ce ne sont pas des êtres véritables. C'est, il faut savoir que ce sont des êtres véritables pour comprendre ces choses. C'est ça la différence, n'est-ce pas? Merci. Pour eux, c'est seulement une question, un produit de l'imagination humaine. Ça ne correspond à rien qui soit réel dans l'univers. Tandis que ce n'est pas exact. Ce sont tous des divinités, des êtres vivants dans leur domaine propre, ayant leur réalité indépendante, qui existerait même si les hommes n'existent pas. Ils existaient. La plupart de ces dieux existaient avant que l'homme n'existe. Ce sont des êtres de formation progressive allant vers les régions les plus éthérées ou subtiles, jusqu'aux régions les plus matérielles. C'est une descente de l'esprit créateur divin qui est venu réparer le mischief.
Les méfaits.
Oui, enfin, ce que les Asuras avaient fait, pas les premiers formateurs, ils avaient créé un désordre, une obscurité, une inconscience. Et alors il y a eu une seconde lignée de formateurs émise pour réparer ce mal-là. Et ceux-là sont descendus progressivement à travers des réalités de plus en plus, faut pas dire dense parce que ce n'est pas, mais on ne peut même pas dire matériel, puisque la matière existe, une substance de plus en plus concrète. Et alors, c'est suivant les écoloquies, suivant les traditions, toutes ces zones de réalité, ces plans de réalité ont des noms différents. Ils ont été classifiés de façon différente, mais il y a eu une analogie essentielle. Et si on remonte assez haut dans les traditions, il n'y a plus guère que les mots qui changent. Les descriptions sont tout à fait analogues. Et d'ailleurs, ceux qui suivent le chemin contraire, c'est-à-dire l'être humain qui, par connaissance occulte, peut se sortir d'un de ses corps, d'un de ses corps, pour entrer dans un corps plus subtil, pour agir dans un corps plus subtil, et ainsi de suite, qui fait sortir chaque corps d'un corps plus matériel, laisse le corps plus matériel dans la zone correspondante et s'en va par extériorisation successive. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont découvert et vu par leur ascension, la description est pour ainsi dire, analogue. Ils ont mis des mots différents, mais l'expérience est très, très semblable. Il y a toute la tradition chaldéenne, et puis il y a la tradition védique. Et il y avait très certainement une tradition antérieure aux deux et qui s'est séparée en deux branches. Eh bien, toutes ces expériences occultes ont été les mêmes. C'est seulement la description qui a été différente suivant les pays et les langages. Mais encore maintenant, ceux qui sont des occultistes d'Occident et les occultistes d'Orient, eh bien, ils ont une grande similitude dans leur expérience. C'est seulement la façon dont il l'exprime qui diffère. Et le maniement des forces elles-mêmes. J'avais appris tout ça par Timon, très semblablement, c'était, je ne sais pas si c'était un Russe ou un Polonais, un Juif russe polonais, il n'a jamais dit ni ce qu'il était vraiment, ni où il était né, ni son âge, ni rien. Il avait eu deux noms d'emprunt, n'est-ce pas? Un nom arabe qu'il avait pris quand il était allé en Algérie, s'était réfugié en Algérie pour quelle raison, je ne sais pas. Après avoir travaillé avec Blavatsky et fondé une société occulte en Égypte, après ça, il était venu en Algérie et là, il s'était d'abord appelé Aya Aziz, qui est un mot d'origine arabe et qui veut dire le bien-aimé. Et puis, quand il a commencé à fonder sa revue cosmique et son groupe cosmique, et il s'est appelé Max Théon, c'est-à-dire le Dieu suprême. C'est le plus grand Dieu. Et personne n'a connu d'autre nom que ces deux noms-là, ou Ayazis ou Max Théon. Il avait une femme qui était anglaise. Et lui disait qu'il avait reçu l'initiation dans l'Inde. Il savait un peu de sanskrit et connaissait à fond le Rig Veda. Mais alors il avait élaboré de façon quelconque une tradition qu'il appelait la tradition cosmique et qu'il prétendait avoir reçu de, je ne sais de quelle manière, d'une tradition antérieure à la Kabbale et au Veda. Il y avait beaucoup de choses dans ce... C'était Madame Théon qui était la voyante et qui recevait des choses. Et elle était admirable. Mais il y avait beaucoup de choses que moi j'avais vues et connues avant de les connaître et qui ont corroboré. Personnellement, je suis convaincu qu'il y a eu en effet une tradition antérieure à ces deux traditions-là et qui contenait une connaissance très proche d'une connaissance intégrale. Eh bien, il y a une similitude dans les expériences. Quand je suis venu ici et que j'ai exprimé à Shiobido certaines choses que je savais au point de vue occulte, il m'a toujours dit ça c'est conforme à la tradition. Et alors, certaines pratiques au point de vue occulte, il m'a dit c'est tout à fait tantrique. Je ne connaissais rien ni à ce moment-là, absolument rien, ni des Védas, ni des tantres. Donc, très vraisemblablement, il y a eu... J'ai des souvenirs, n'est-ce pas? Pour moi, c'est toujours des choses vécues. J'ai des souvenirs très clairs, très précis, d'un temps qui était certainement très antérieur au temps védique, à la Kabbale, Kandil. Bien, ça n'est pas, il n'y a qu'un très petit nombre de gens en Occident qui savent que ce n'est pas simplement subjectif et de l'imagination, une imagination plus ou moins vague, que ça correspond à une vérité universelle. Alors, toutes ces régions, tous ces domaines sont remplis d'êtres qui existent dans ce domaine-là, et si vous êtes éveillé et conscient dans ce plan-là, par exemple, si en sortant d'un corps plus matériel, vous vous éveillez sur un plan quelconque supérieur, vous y êtes dans le même rapport avec les choses et les gens que dans le rapport que vous avez matériellement. C'est-à-dire qu'il y a un rapport tout à fait objectif qui n'a rien à faire avec l'idée que vous faites des choses. Naturellement, ça a une ressemblance de plus en plus grande à mesure qu'on s'approche du monde physique, du monde matériel. Et même ça, il y a un moment donné où ça a une action directe. Mais dans les domaines de l'overmind, de ce que j'ai envie de appeler l'overmind, il y a une réalité concrète indépendante tout à fait de votre expérience personnelle. Vous y retournez, vous retrouvez les mêmes choses avec des différences qui se sont produites pendant votre absence. Et vous avez des rapports avec ces êtres-là identiques aux rapports que vous avez avec les êtres physiques, à l'exception que c'est plus plastique, plus souple, plus direct. Et par exemple, il y a cette capacité de changer la forme extérieure, la forme visible, suivant l'état intérieur dans lequel vous trouvez. Mais vous pouvez donner un rendez-vous à quelqu'un et puis vous trouver présent au rendez-vous et le retrouver avec certaines différences qui se sont produites pendant le temps de l'absence. C'est tout à fait concret, avec des effets tout à fait concrets. Il faut au moins avoir un petit peu de cette expérience pour comprendre des choses comme ça. Autrement, n'est-ce pas, si on est convaincu que tout ça c'est de l'imagination humaine et des formations, si Dieu l'a en ses formes, parce que les hommes les ont pensés comme ça, et qu'ils ont ses défauts et ses qualités, parce que les hommes les ont pensés comme ça, tous ceux qui disent que, n'est-ce pas, Dieu est fait à l'image de l'homme, et qu'il n'existe que dans la pensée humaine, ça leur paraîtra des fous. Et il faut avoir, comment dire, vécu un peu, touché un peu au sujet pour savoir à quel point c'est une chose concrète. Naturellement, les enfants savent beaucoup si on ne les gâtait pas. Il y a tant d'enfants qui retournent au même endroit toutes les nuits et continuent une histoire qu'ils ont commencée. Quand ces choses-là ne sont pas gâtées, on peut les conserver avec soin. Quand je m'intéressais spécialement aux rêves, je pouvais retourner exactement à un endroit et continuer un travail que j'avais commencé. Par exemple, acheter quelque chose, arranger quelque chose. Il y aura un travail d'organisation, de découverte, d'exploration. On va jusqu'à un certain endroit, comme on va dans la vie, et puis alors on se pose, et puis on retourne et on recommence. On recommence à l'endroit où on l'a laissé et on continue. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont tout à fait indépendantes de vous, dans le sens qu'elles ont, il y a des variations dont vous n'êtes pas du tout l'auteur, qui se sont faites automatiquement pendant votre temps. Mais pour ça, il faut vivre ces choses soi-même. Et il faut voir les vivre avec assez de sincérité pour voir que si on est sincère, si on est spontané, elles sont indépendantes de la formation mentale, parce qu'on peut faire la contrepartie et l'étude approfondie de l'action de la formation mentale sur les choses. Ça, c'est très intéressant. Et c'est un autre domaine, et celui-là, il faut rendre très soigneux, parce qu'on s'aperçoit à quel point on peut s'illusionner soi-même. Alors il faut faire les deux pour voir quelle est la différence essentielle entre les deux choses. Une qui existe en elle-même, tout à fait indépendante de la pensée que l'on a, et ça a été une grâce, on m'a fait avoir toutes les expériences sans que je sache rien de ce dont il s'agissait. Ma pensée était absolument blanche. Il n'y avait aucune correspondance active dans la pensée formatrice, beaucoup. Je n'ai su les choses qui étaient arrivées, ou les lois qui les gouvernaient, que après, quand j'ai fait une enquête de curiosité pour savoir à quoi ça correspondait, alors j'ai découvert, mais autrement, je ne savais pas. Alors j'ai eu, n'est-ce pas, la preuve que c'était des choses qui existaient tout à fait en dehors de mon imagination, de ma pensée. Ce n'est pas très fréquent dans le monde. Alors ça, ces choses-là qui nous paraissent tout à fait naturelles, évidentes, pour des gens qui ne savent rien, c'est l'imagination de leur monde. Voilà. Mais transplante ça en France, je ne sais pas, à moins qu'on fréquente des milieux occultes, qui vous regardent. Et quand vous avez le dos tourné, c'est pas vrai.
Peu après, le disciple demande à Mère quelle est la différence essentielle entre la réalité occulte et la formation mentale.
On se rend compte que si on a étudié un sujet, si on a appris mentalement quelque chose, ça donne une coloration spéciale à l'expérience que l'on a. L'expérience peut être tout à fait spontanée et sincère, mais le fait d'avoir connu ce sujet-là et étudié donne une coloration spéciale. Tandis que si on n'a rien appris sur le sujet, si on ne sait rien du tout, eh bien, quand vient l'expérience, la notation est tout à fait spontanée et sincère, elle peut être plus ou moins adéquate, mais elle n'est pas le résultat d'une formation mentale préliminaire, antérieure, formation mentale antérieure. Alors, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je n'ai su étudier les choses qu'après avoir eu l'expérience. À cause de l'expérience, parce que je voulais la comprendre et que j'ai étudié quelque chose de correspondant. Bon. Les visions des vies antérieures, c'était la même chose. Je ne savais rien, même de la possibilité de vies antérieures, quand j'ai eu les expériences. Et c'est seulement après avoir eu des expériences que j'ai étudié la question et que j'ai même, par exemple, vérifié des faits historiques qui s'étaient passés dans ma vision et que je ne connaissais pas auparavant. C'est ça que je veux dire.